un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Faussaire génial, spécialiste des faux papiers, Adolfo Kaminski commence à travailler à 17 ans pour la résistance en France. Ses papiers aident ensuite les rescapés juifs des camps de la mort à émigrer en Palestine. Puis il fait des faux papiers pour toutes les luttes anticoloniales et antifascistes que la Terre connaît. Pour le FLN pendant la guerre d'Algérie, les antifranquistes en Espagne, les anti-Salazar au Portugal, la lutte contre les colonels en Grèce, le printemps de Prague, les luttes contre les dictatures en Amérique latine, en Guinée, en Angola. Même les déserteurs américains pendant la guerre du Vietnam ont droit à des papiers « Made in Adolfo Kaminski ». J'étais contre la violence, les fascismes. Quand il y a eu la guerre en Algérie, je ne connaissais pas d'Algériens. Mais c'était une guerre inutile. J'ai fait ce que j'ai fait et j'ai bien fait, dit-il au journal Le Point en 2011. En 1971, cet homme de l'ombre, qui permit à tant d'autres de sortir de leur cachette, de passer de la clandestinité au grand jour, de traverser une frontière, de rejoindre les leurs, cet homme qui sauva tant de vies avec son microscope, l'homme de l'ombre le plus discret, met fin à ses activités souterraines. Il publie le récit de sa vie et expose des photos au grand jour cette fois. Il est mort en janvier 2023 de cette année et nous lui avons consacré une émission que vous pouvez réécouter. En attendant, aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de l'ombre, deux hommes qui y vivent encore ou y ont vécu, deux clandestins, deux hommes cachés qui n'ont pas, hélas, rencontré deux faussaires géniales pour les sortir de là. Un reportage d'Ilana Navarro intitulé « Se cacher ».
Moi, je viens du Sénégal, j'ai 32 ans, je suis à Paris depuis 4 ans, je suis né dans une famille modeste. Par exemple, des fois, la famille n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous pouvez manger 3 fois dans la journée, mais des fois, c'est pas trop évident, par exemple, d'avoir tout cela. Et tu es élève, tu parviens pas à t'acheter des livres et tu veux réussir. Je suis peut-être intelligent, mais comment je dois faire? Il me faut des moyens. Et un jour, tu te réveilles de ton sommeil, tu te dis, comment c'est de sortir d'ici? Il faut que j'essaie de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est d'aller en immigration. Et comme j'ai vu que j'ai pas les moyens d'aller à l'ambassade des États-Unis ou de la France ou d'Italie ou d'Espagne pour un visa, parce que c'est tout un processus et c'est pas trop facile pour un pauvre mec comme moi. Je me suis dit que il y a un autre moyen. C'est la route la plus facile que je me suis dit pour moi. J'ai pensé que ça peut être dangereuse, mais c'était mon seul voie de salut, qui est la mer. Réussir ou périr. Moi, déjà, j'étais conscient du risque. Quand on quittait le Sénégal pour aller en Mauritanie, on était au nombre de 20 à 25 personnes. Parce que le passeur avait organisé le voyage, parce qu'il devrait nous donner à un autre passeur en Mauritanie. Et ce passeur aussi devrait nous donner à un autre passeur au Maroc. Et quand on est parti au Maroc dans le désert du Sahara, c'est des frontières. Presque on ne le contrôle pas, je peux dire. Là-bas, tu es un peu tranquille, mais avant d'y arriver, on a vécu plus de 45 jours de route. On se cachait. Imagine-toi, on met 20 personnes dans un... Tu vois les Land Rover des militaires là? On y met 20 personnes derrière. Serré. Tu peux passer 12 heures de temps accroupi comme ça. Un comme ça, l'autre assis sur ton pied. 12 heures de temps. Et quand les passeurs ont faim ou ils veulent se reposer, ils vous mettent dans des grottes. Et eux, ils s'éloignent de toi. À 5 km, Ils vont là-bas, ils vont manger et tout. Et à vous, ils vous donnent de petits pains, un peu d'eau, juste pour pouvoir encore un peu tenir la route. On est obligé de se casser dans la grotte. En Mauritanie, il y a une montagne qu'on doit escalader. C'est là-bas que le passeur de la Mauritanie te laisse pour que tu rejoignes l'autre passeur du Maroc. La moitié des immigrants meurent là-bas. Tu dois marcher sur la montagne pour l'escalader. Tu commences par exemple de la crépuscule vers 19h-20h jusqu'à 4h du matin, tu marches. Imagine-toi quelqu'un qui a fait 2 semaines de route. Des fois il se cache, des fois il mange pas bien, il boit pas bien, il se lave pas. Le stress. Après, vient un moment, tu lui dis, vous devrez escalader la montagne, sinon nous aussi, nous allons avoir des problèmes. Et celui qui ne peut pas y aller doit rester. On ne peut attendre personne, que tout le monde soit prêt. Moi, je me rappelle, on a sauvé un ami. On l'a connu sur la route. Il était trop fatigué. Après, on l'aidait, il ne pouvait pas marcher. J'étais avec un ami à moi. Il a dit, non, laissez-moi ici, je sais que je ne peux plus, mais vous devrez y arriver, vous. Nous, on s'est dit que non. Il faut qu'on y aille. Si tu restes, on va rester. Après, on a commencé à l'apprendre comme ça, à l'épauler jusqu'à escalader la montagne. Il est venu avec nous, mais 2 ont péri. Quand on a escaladé la montagne, il y a un autre guide qui nous a pris pour nous amener dans le Sahara marocain. Mais là-bas, on doit attendre dans les dunes de montagne. Et ce qui est pire, ce que je n'ai pas dit, les bateaux qui nous amènent en Espagne, c'est nous qui les fabriquons. Et c'est eux qui amènent les planches. C'est nous qui faisons ça. Ils nous disent de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et on peut le faire en 3 ou 4 jours. Tout le monde participe. On a fait 3 ou 4 bateaux. Là où on quitte les dunes de sable, c'est un peu loin de la mer. Ça fait plus de 100 km, quelque chose comme ça. Le bateau, on le met sur les voitures. On les attache.
Vous étiez en train de vous cacher pendant que vous faisiez les bateaux?
Ouais, on sortait pas. Et les passeurs venaient chaque 2 jours pour nous donner à manger du pain et des sardines. Durant 45 jours, sans changer, on était à quelques 100 km de la ville. On était dans le Sahara. Dans les dunes de montagne. Personne ne nous verra. C'est comme si on était dans des trous. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont décidé de retourner parce qu'ils ne savaient pas le périple qui était, par exemple, poser ses bateaux sur la mer, y entrer et avoir un capitaine que tu n'as jamais connu dans la vie et qui doit faire, par exemple, 12 heures ou 24 heures de temps sur la mer et tu ne sais pas comment est la mer. Et on te donne juste un boussole qui nous guidait. Et nous, par exemple, on paye quelques 2000 euros chacun. Quand on est arrivé en Espagne, on a fait 21 jours dans les camps. Il veut savoir pourquoi tu es venu, trop de questions. Après, c'est à ce camp-là qu'on a quitté Fuerteventura pour nous amener à Madrid. On est en situation irrégulière. On a le droit de rester sur le sol espagnol durant 15 jours. Et quand on est arrivé à Madrid, la Guardia Civil, je me rappelle, c'est la gendarmerie, l'équivalent de la gendarmerie. Ils nous ont donné juste un fruit, un sandwich. Et ils nous ont dit, bienvenue en Europe. J'ai vu les gens courir. C'est mon première impression. Tout le monde courait vers le métro. Je me suis dit, mais attends, nous là-bas, on est trop tranquille. Chacun va à ses occupations. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici que je cherchais? Et c'est à ce moment-là que je me suis posé tas de questions. Je me suis dit, c'est juste ça que je me suis évertué, que je voulais me tuer pour venir. Non. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ça. Peut-être que je viens juste d'arriver. Et comme ça, je me suis évertué à avoir un peu d'argent pour aller à Barcelone. Parce que pour moi, Barcelone était un rêve. C'est mon équipe préférée. Les Xavi, les Iniesta, ils jouaient, je les voyais à la télé. J'étais tellement content. Je me disais, ah, je vais à Barcelone, là-bas où il y a la vie. Il y a tout. C'est l'Eldorado, au fait, que j'ai rêvé. Et quand je suis arrivé là-bas, Et j'ai été aversé par des amis que je connaissais, au fait. Le lendemain, quand je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, au fait. Ils m'ont dit, nous, la seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on vend. J'ai dit, vous vendez quoi? Ils m'ont dit, des contrefaçons. Des montres, des casquettes, des CD, plein de trucs. Mais il y a des risques. Quand on prend, on t'amène en prison. Ou si tu ne veux pas le faire, tu vas dans les campagnes, tu vas travailler là-bas, et c'est très dur. Non seulement que c'est dur, on te paiera de la misère. J'ai choisi de rester, mais je dois me casser. Et je me suis cassé. Parce que je ne suis pas à règle. Non seulement que tu n'as pas de papier, tu ne peux pas sortir tout le temps. Tu as des heures que tu sors et d'autres non. On allait à la place publique pour vendre. Mais il fallait nous voir quand on voyait les policiers. C'était comme le chat et la souris. On se cassait à chaque fois. Par exemple, pour sortir de chez moi, je descends de l'escalier devant ma porte. Je regarde à gauche et je regarde à droite pour voir, par exemple, s'il y a un policier ou il y a quelque chose au moins ce qui peut m'effrayer. Et on m'a pris plusieurs fois, mais on m'a gardé 48 heures ou 24 heures. On m'a laissé après. Moi, mon seul peur, c'était qu'on me refoule. C'est moi. Voir mes parents, mes amis, ceux qui croyaient en moi et ceux qui, quand j'ai réussi, je vais leur en donner un tout petit peu. C'était mon seul peur. Mais pour moi, non, j'avais pas peur. C'est à ce moment-là que je me suis fait l'homme que je suis. J'avais plus peur. Et j'ai commencé à gagner un peu d'argent. J'étais un peu bien, mais je me cassais tout le temps. Je me cassais partout. Dans les gares, dans les trains. Par exemple, moi, à la fin, même un policier en civil, je peux le détecter. Quand je vois des gens costauds qui sont deux ou trois, je me méfie. Par exemple, je te vois de loin, j'essaie de changer de chemin. Ou je faisais de mon mieux pour entrer. Par exemple, en général, les policiers respectent les gens. Tu entres dans la foule. Et ils ne dérangent pas, ils savent que tu es en train de. Tu vois. Et c'est après que j'ai appris l'espagnol, j'ai cherché à avoir un contrat. Et par la grâce de Dieu, comme je suis croyant, j'ai eu le papier espagnol. C'était en 2009. Ça veut dire que je me suis cassé durant 5 ans. 5 ans de ma vie. J'avais commencé à être bien en Espagne. Parce que j'avais eu le papier, je travaillais un tout petit peu. J'ai trouvé que la crise s'annonçait. J'ai perdu mon travail. Et je me suis dit que, comme je parle, je me débrouille en français. Bon, je vais essayer de voir la France. J'ai quitté Barcelone pour venir à Paris. C'était au mois de mai de 2011. Je suis venu. C'est pas du tout facile ici aussi. Des fois, je peux gagner. Si je vois que, par exemple, je peux payer mon loyer et je peux manger un peu, parce que je connais les nécessités de la famille, j'essaie d'envoyer un petit quelque chose pour qu'ils puissent vivre. Au moins, ma famille est compréhensible et ils connaissent mon intention envers eux. Quand j'ai de l'argent, ils le savent. Et quand je ne l'ai pas, ils le savent. Ils se débrouillent. Des choses qui m'ont marqué. Ça, c'était avant que j'y pensais beaucoup trop. Parce que je n'arrivais pas à comprendre, par exemple, les amis qui sont tombés, qui sont morts en route. Au lieu de retourner, tu dis que non, je vais continuer. Pourquoi tu continues? Parce que tu as la foi de que ça va réussir. Tu as la foi que même quand tu meurs, c'est pas que tu meurs en martyr, au fait. Mais tu te dis que même quand tu meurs, au moins, tu es mort en faisant quelque chose, en voulant aider une famille, à se donner la vie pour les autres, en fait. Changer la situation, en fait. Et tu as la certitude que c'est toi que tu dois le faire.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Maurice Baran-Marchac, donc je suis né à Poitiers. Mes parents étaient d'origine polonaise, hein. Mes parents faisaient les marchés, mes grands-parents aussi. Ils vendaient de la bonneterie, de la lingerie. Mon père adorait ce métier. Donc comme nous habitions à Dunkerque, rue de la Porte d'Eau, hein, chaque jour de la semaine, ils allaient dans une autre ville. Le mardi, ils allaient par exemple à Bourbourg, le mercredi, c'était à Dunkerque. Ils allaient à Calais aussi, et le samedi, ils revenaient à Dunkerque. Donc j'avais une nounou Georgette qui est arrivée, elle avait 15 ans, hein, moi j'avais 6 ans. Et comme mes parents n'étaient jamais là, puisqu'ils faisaient les marchés, c'est elle qui avait la charge de me garder, de m'élever. On faisait les magasins, elle m'emmenait sur les manèges, on allait prendre des friandises. Georgette m'a appris à fumer, par exemple. Elle fumait, je crois que j'ai fumé avec elle toutes les sortes de cigarettes qui existaient à l'époque, des cigarettes brunes, hein, des gauloises, des baltos, des gitanes. Enfin, elle m'a appris toutes les bêtises qu'on peut apprendre. C'est-à-dire que, étant une fille de la campagne, elle avait déjà travaillé dur et elle voulait sortir de ce milieu agricole qui était un petit peu pas très ouvert sur l'extérieur. Donc, de venir en ville, de travailler en ville, ça a été pour elle une décision qu'elle a dû prendre, de quitter ses parents, et un risque, parce que la guerre est arrivée. Dunkerque a été bombardé terriblement par les Allemands. On était jour et nuit dans la cave. Et très vite, le gouvernement français, comme vous savez, a édicté des lois d'exception. C'est-à-dire que, par exemple, nous, là, il se trouvait que les Allemands avaient peur que les Juifs dans le nord, au bord de la mer, soient des gens dangereux, peut-être des espions. Donc, tous les Juifs ont dû quitter la côte et nous sommes partis à Lille. Et là, il y avait ce qu'on appelait le marchand de journaux. Alors, tous les mercredis, on allait acheter les albums, les bandes dessinées. C'était les Bibi Fricotin, c'était Opalong Cassidy, c'était des revues. Georgette a acheté ses petits romans d'amour, enfin voilà. C'était l'atmosphère qui régnait dans notre quartier. Et puis, les choses se sont aggravées, c'est-à-dire qu'il y a eu de nouvelles lois qui disaient que on avait d'abord, pour les commerces, les denrées devenaient rares, il n'y avait que des heures et certains magasins où nous pouvions aller acheter de l'alimentation. Donc très vite, Georgette, qui était très très débrouillarde, elle a fait un travail extraordinaire, on a acheté une bicyclette et on allait en banlieue acheter dans les fermes et on ramenait de l'alimentation et elle m'emmenait sur son vélo, enfin... Il y avait des magasins, mais c'était devenu de plus en plus difficile. Il y avait les cartes de ravitaillement, bien sûr. Il y avait certaines heures où on pouvait circuler. Les jardins ont été interdits. Les cinémas, surtout, étaient interdits. Or, avec Georgette, je ne suis jamais allé autant au cinéma. Parce que Georgette disait, mais on est en France ici, on fait ce qu'on veut. Les Allemands, ils ne peuvent pas nous empêcher d'aller au cinéma si on a envie d'aller au cinéma. Bon, en 1942, ça s'est aggravé encore avec le port de l'étoile jaune qui est devenu obligatoire en juin 1942. Alors, on m'a cousu l'étoile, mais on la faisait de telle façon qu'on puisse la cacher. Bon, voilà ce qui se passait. Alors, en juillet, le 25 juillet, mon père ne pouvait plus... D'abord, il n'avait plus de travail, hein, on n'avait plus le droit de faire de commerce. Alors, on vendait en gros des tissus. Je me souviens, il y avait une réserve de gros rouleaux de tissus dans le fond de la chambre où on essayait de vivre en vendant en cachette des tissus. Mais enfin, bon, n'en pouvant plus, il a décidé d'aller en France libre, nous faire passer la ligne de démarcation et d'aller en France libre. Malheureusement, il a réuni un certain nombre d'amis. Il a trouvé un passeur. Et puis, ce passeur était de mèche avec les Allemands. C'est-à-dire, une fois qu'il a pris l'argent, il les a donnés aux Allemands, qui l'ont mis dans la prison de Loos. Et très vite, ma maman l'ayant su, est allée à la prison de Loos, mais il n'était plus là. Et ils ont été dirigés en Belgique, et de là à Auschwitz, malheureusement. Et bon, l'atmosphère s'est alourdie, on ne sortait plus. La seule distraction, c'était de jouer aux cartes à la maison, je me souviens. Et puis moi, j'ai devenu très insupportable. J'étais déjà un petit brigand, mais là... Et ma mère, je me souviens qu'elle a elle a ressorti le martinet. Je ne voulais plus obéir. Bon... Il y a d'autres choses ont fait qu'elle a été terriblement troublée. Parce qu'il faut que je vous dise qu'au mois de mai, j'ai eu un petit frère, mon frère Michel, hein, qui est né en 1942, en plein mois de mai, le 30 mai, quand la période la plus horrible. Et on a fait la circoncision, hein, je me souviens, en pleine guerre, on avait une grande fête. Enfin, c'était... Bon, je vous passe tous les détails. Et en même temps, chose qui m'a été cachée, 6 mois avant, on m'a mis en pension. Et je suis resté là plusieurs mois... Et puis, un beau jour, mon père est venu me chercher parce que j'avais mon petit frère qui était né. Bon. Et puis, j'ai appris beaucoup plus tard, hein, maintenant, il y a 50 ans plus tard, que Georgette a eu un garçon aussi, qui s'appelait Jackie, qui vit encore. Et on a su 50 ans plus tard, parce que ça a été caché, que ce Jackie avait le même père que moi et le même père que Michel, c'était mon père, qui était à l'origine de ses naissances. Et quand je suis revenu à Lille, Georgette était là, mais le petit garçon était mis en pension, donc à cette époque, je ne l'ai pas connu, ce petit Jackie. Donc tout ça, vous voyez, c'est un ensemble qui se rajoute à la tension, parce que je pense que ma mère n'était pas dupe. Enfin voilà, donc, toujours est-il que le 11 septembre 1942, c'était le jour de la grande rafle. C'est-à-dire que à 6h du matin, on est venu frapper à la porte, et puis ma mère ou Georgette a ouvert, et c'était la Gestapo et la police allemande qui venaient, qui étaient furieux, qui étaient pressés, qui voulaient qu'en 5 minutes, on prépare une valise avec très peu de choses pour prévoir l'alimentation pour un jour, mais il fallait prévoir les couches pour le bébé, les biberons, les vêtements, enfin. Donc, ma mère était dans tous les états, et moi, ce qui paraît, je pleurais, j'étais accroché à ma mère, je ne voulais pas la quitter. Donc c'est Georgette encore qui a dû prendre les responsabilités de préparer tout cela. Et puis, ils nous ont descendus dans un camion qui attendait dans la rue, et de là, ils nous ont amenés à Fives-Lille, une petite gare. Et là, j'étais effrayé, ce qui paraît sur ce quai de la gare. Au début, il y avait relativement peu de monde, et puis les gens arrivaient. Donc Georgette est venue nous apporter des choses. Ma mère était là avec le bébé, il y avait des tables, enfin, il y avait d'autres parents avec des bébés et des enfants aussi. J'ai appris tout cela parce que j'ai demandé plus tard. Et alors, à la clinique Ambroise-Paré, où mon petit frère était né 3 mois plus tôt, il y a eu des volontaires, dont une certaine mademoiselle Neubert, qui est venue sur le quai. Ma mère, elle lui a demandé d'emmener son fils de 3 mois, vous imaginez une maman demandant de se séparer de son bébé de 3 mois, c'est impensable. Elle a donné son bébé qu'on a mis dans un sac à dos. Et là, il y a eu un drame, parce que le bébé, quand on l'a mis dans un sac à dos, il s'est mis à hurler. Et alors, il s'est passé un truc, c'est qu'une locomotive haul-pied, vous savez, c'est une locomotive tout seul qui vient et qui a fait un bruit énorme, qui sifflait, le hasard, comme ça. Les Allemands qui étaient sur le quai se sont mis à regarder ce train. Et cette infirmière a profité pour passer et sortir de l'autre côté. Et donc, voilà. Et ma mère, quand elle a vu Georgette, elle lui a dit « Tu prends Maurice et tu t'en vas ». Elle m'a pris par la main et quand on est sorti, un garde nous a demandé « Où est-ce que vous allez ?» Et Georgette lui a répondu tac au tac « Il a soif, je vais lui donner à boire. » Et il nous a laissé passer. Était-ce un garde allemand, un garde français ? Je ne me souviens plus. Et on s'est enfui en courant rue de la Vignette, où je me suis caché jusqu'au soir, chez la concierge, sous la table, tellement j'avais peur. Le soir venant, Georgette m'a pris par la main, on est allé à la gare de l'île Flandre, et on a pris un train pour Lonneplage, étant le petit village où habitaient ses parents. Et là, j'étais reçu dans une famille, hein, le matin, comme cela, une forte femme qui nous a reçus, et puis un petit garçon de mon âge, de ma taille, à peu près, il était arrêté 2 ans plus jeune, mais il nous regardait, il nous suivait, il écoutait. Et Georgette a dit à sa mère, « Ben voilà, mes patrons ont été ramassés et moi j'ai pris gamin et je te l'amène pour que tu le gardes. » Et puis là, voilà, ça a été décidé comme ça. Et alors la chose horrible, c'est que cette Georgette, elle n'a pas pu rester dans la famille parce qu'elle était fille-mère, comme je vous ai raconté. Et dans la famille, ça ne se fait pas. Alors, elle est repartie à Lille travailler encore pendant 1 an. Elle a travaillé pour les Allemands, même, ce qui paraît. Et puis, elle a mis son petit-fils en pension. Bon, moi, entre-temps, j'ai été pris en charge par cette famille, François, les parents. Et très, très vite, je me suis senti à l'aise. Très, très vite, hein, il n'y avait plus d'étoiles jaunes sur le cœur comme une cible sur laquelle on pourrait tirer. Hein. Je suis devenu, d'emblée, ce petit garçon m'a pris. Et alors, il parlait une langue que je ne connaissais pas, le patois du Nord.
C'était le petit frère de
Georgette. C'était le petit frère de Georgette qui s'appelait Lionel. Et tout de suite, il m'a emmené voir les animaux. Et là, ben, je me suis intégré comme un membre de la famille. Ça a été ma volonté, je suppose. Mmh. Et donc, on travaillait dans les champs quand même beaucoup. Et je m'investissais, je voulais. Parce qu'à la campagne, si vous voulez, les notions morales sont différentes de ceux de la ville. Si on veut être considéré comme être un homme responsable à la campagne, c'était celui qui était un bon ouvrier, un bon travailleur. Ça, c'était quelqu'un qu'on considérait. Et moi, je voulais être comme eux, c'est-à-dire comme les adultes, je voulais être considéré. Et je mettais mon amour propre à travailler comme les adultes. Et j'y réussissais bien.
Vous aviez l'impression d'être caché ?
Pas trop, non. Non, très vite, j'ai oublié. Et pourtant, près de la maison, il y avait des Allemands. On les évitait, on les ignorait. C'était comme si on les voyait pas, les Allemands. Enfin, on avait peur quand même, parce qu'ils avaient une forme d'autorité, une forme de... Mais on n'a jamais eu d'action, de contact avec eux. Bon, par exemple, le curé le savait. Il disait, mais vous savez, Madame François, que vous gardez un petit, je sais pas, un païen, mais un petit... Elle a dit, ben oui, monsieur le curé, mais je croyais qu'il était écrit, il faut s'aider les uns les autres. Vous avez raison, Madeleine, vous êtes une sainte. Et ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que l'Allemagne capitule, quoi. Alors, à ce moment-là, c'était la libération. Bien sûr, un beau jour, les demoiselles de la clinique Ambroise Paré, où était mon petit frère, sont venues aussi, ils m'ont retrouvé. Et alors là, ils sont venus me dire, ben voilà, tu as un petit frère, je sais pas si tu te souviens, parce qu'il avait 3 mois quand vous avez été séparés, mais maintenant il a 5 ans, et il faut que vous soyez réunis ensemble pour être élevés ensemble. Vos parents apparemment ne sont pas revenus. Donc on va vous chercher une famille. Et moi sur le coup, ben... C'était pas commode, hein. J'étais tellement bien là, j'avais des parents et j'étais heureux. Bon, ils m'ont raisonné, j'ai dit, ben oui, c'est normal. J'ai appris après la guerre, maintenant, il y a 2-3 ans, parce qu'il y avait un café, vous savez, le café des Février, il y avait un fils Février dans ma classe, où on faisait les bals, où on faisait les mariages, où on faisait... Et en discutant avec un de ses frères, il me disait, tu sais, on savait que tu étais juif, mais il ne fallait pas le dire. Hein. Et ça m'a bouleversé, quoi. Parce que je croyais qu'on ne savait pas que j'étais juif, quoi. Et le village le savait. Et ne disait rien. C'est quand même formidable, non ?
C'était Se cacher, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Perry Legras avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci à Maurice Baran-Marzac, à Jacques-Olivier David et à Mam Fedior. Cette émission a été diffusée pour la première fois en 2015. Notre attaché de production, c'est Céline Paris. Et la stagiaire des Pieds sur Terre, c'est Rita Ruggirello.